La marche du monde. Valérie Nivelon.
La marche du monde enregistrée en public au Festival international du court-métrage de Clermont-Ferrand pour le 10e anniversaire de la séance Cours d'histoire, dont RFI est partenaire depuis sa création. Nous avons monté notre studio à la librairie des Volcans, que je remercie chaleureusement pour son accueil. Et nous avons le plaisir de retrouver Georges Bollon. Bonjour Georges.
Bonjour.
Vous êtes l'un des fondateurs du festival et du programme Cours d'histoire. C'est une séance où vous proposez des courts-métrages inspirés par l'histoire avec un grand H. La formule connaît un succès toujours plus grand. Comment vous expliquez ce succès? Et tout d'abord, est-ce que vous pouvez revenir sur le principe même de cette séance consacrée cette année au regard sur la Palestine?
Oui, Cours d'histoire a été créé en 2010 suite à la découverte d'un livre écrit par une grande historienne qui s'appelle Sylvie Lindeberg, qui a fait un livre de 250 pages sur un court-métrage de 30 minutes, à savoir Nuit et brouillard d'Alain René. Et donc ça nous a donné l'idée d'engager un processus de ce côté-là, c'est-à-dire que moi j'ai toujours été, de par ma formation, très intéressé par les problèmes historiques et politiques, sociologiques, etc. Hein, il y a plusieurs entrées dans la cinéphilie, donc c'était une de mes entrées dans la cinéphilie. Et par ailleurs, on voulait travailler aussi sur... en quelque sorte, un peu aussi une recherche de sens, pas uniquement de passer des images, passer des films, etc. C'est tout le processus qu'on a mis en place au fil des années avec l'éducation aux images, avec les maternelles, avec les primaires, enfin jusqu'à l'université. Donc je ne rentre pas là dans les détails. Mais ce premier cours d'histoire avec Sylvie Lindeberg était tout à fait passionnant. Et donc l'objet de cours d'histoire, c'est de mettre en rapport des courts-métrages, parce qu'en général on met en rapport des longs-métrages avec l'histoire, et là de mettre en rapport des courts-métrages avec des périodes historiques, et voir comment cette période historique, elle est traitée, ou qu'est-ce qu'il en reste à travers des films. Hein, par exemple, si on lit le livre de Sylvie Lindeberg sur Nuit et brouillard, on s'aperçoit que c'est le même film avec les mêmes images, et avec les mêmes sons, mais en fait non, c'est pas vraiment le même film en 56, dans les années 60, dans les années 80 ou dans les années 90 quand Lang s'en empare pour qu'il irrigue tous les lycées de France, voire maintenant. Donc c'est aussi ça, qu'est-ce qu'un film peut faire par rapport à l'histoire et quel est le reflet de l'histoire dans les films. Alors bon, après on a travaillé sur la guerre d'Indochine, sur l'Algérie, etc., avec des films de l'armée tout à fait intéressants, hein, des films tout à fait colonialistes et tout, et bon, mais où il y avait justement, c'était intéressant de voir quel était le propos qui était développé à travers la propagande de l'armée française en Indochine ou en Algérie. On a fait le Front populaire et l'an dernier on a fait une séance qui a très bien marché. Malheureusement, on a été obligé de refuser quasiment 200 personnes, c'est sur mai 68. Bon, là, il y avait aussi un aspect anniversaire et puis peut-être même générationnel dans la salle.
Et ce n'était pas une AG, c'était bien une séance de décryptage de l'image. Est-ce que c'est pas ça, justement, Sylvain Dreyer, qui fait le succès de cette séance Cours d'histoire, c'est-à-dire donner des outils aux spectateurs pour décrypter l'image, c'est-à-dire qu'est-ce que le réalisateur a voulu montrer, quel est son regard sur une réalité, quel est son point de vue, mais aussi quel sens ces images peuvent prendre, comme l'a souligné Georges Bollon, au fil du temps, au fil du passage du temps. Sylvain Dreyer.
Oui. Oui, alors là, la séance qu'on a menée hier était consacrée au cinéma palestinien. L'intérêt de ce type de séance, effectivement, c'est à la fois d'offrir un éclairage historique, bon, dont on ne peut pas se passer, évidemment, historique, politique, sociale, mais il y a aussi une approche plus cinématographique, cinéphilique, esthétique, où on essaye de voir comment les formes sont à même de véhiculer un message politique.
Et c'est justement votre proposition. Vous êtes maître de conférences et agrégé de lettres modernes à l'université de Pau, et vous travaillez sur les thèmes de l'engagement, du témoignage, de l'idéologie ou de la propagande dans la littérature et dans le cinéma. Et c'est justement ces thèmes-là que nous allons aborder à travers le cinéma palestinien. C'est un cinéma profondément lié à l'histoire du conflit israélo-palestinien, puisqu'il est né en quelque sorte en réaction à la victoire d'Israël lors de la guerre des Six Jours en 1967.
Absolument, oui, c'est finalement un cinéma assez jeune et un cinéma assez, j'ai envie de dire, rare, parce qu'il apparaît tardivement. Il y a quelques images des Palestiniens antérieures à la guerre des Six Jours, hein, puisque la fondation du cinéma palestinien remonte à peu près à cette période-là, la fin des années 60. Mais ce n'est pas des images qui sont tournées véritablement par les Palestiniens, c'est plutôt des images de la Palestine tournées par des réalisateurs britanniques au moment du mandat de la Grande-Bretagne sur la Palestine et par des cinéastes sionistes qui sont arrivés là. Donc il n'y avait pas vraiment d'image palestinienne à proprement parler jusqu'à la fin des années 60. C'est pour ça qu'un petit peu un des fils qui me semblait intéressant de développer, c'était l'idée d'un peuple qui n'a pas accès à son image ou alors qui a accès à son image assez tardivement et très progressivement.
D'autant que vous avez cité Golda Meir, donc première ministre d'Israël. Dans une interview au Sunday Times, c'était en 1969, elle déclarait « Il n'y a pas de peuple palestinien, ce n'est pas comme si nous arrivions les chassions de leur propre pays, il n'existe pas ». Quels sont les enjeux du coup définis par les cinéastes palestiniens au début des années 70, Sylvain Dreyer, dans ce contexte d'une Israël triomphante.
Oui, alors ce propos de Golda Meir est extrêmement précieux pour comprendre un petit peu les choses, parce que l'effort de construire une cinématographie palestinienne, l'effort de monter des structures, ça se fait très progressivement et de manière assez artisanale, c'est un enjeu immense en fait, puisque le conflit qui existe sur le terrain, le conflit réel, comme tous les conflits finalement, est redoublé par un conflit au niveau des images, des représentations, de l'opinion. Et donc c'est pour ça que c'est décisif à ce moment-là de commencer à réaliser des courts-métrages qui peuvent alerter l'opinion internationale sur la question palestinienne.
Des courts-métrages politiques, puisque en 1973, les cinéastes palestiniens, les premiers, décident de réfléchir ensemble et de publier un manifeste. Dans les grandes lignes, quel est cet acte politique? Qu'est-ce qu'ils posent comme principe pour leur action en fait, politique à travers le cinéma?
Oui. Alors absolument, c'est un cinéma politique de part en part. Donc les cinéastes se fédèrent au sein de... Il y a différents groupes de cinéastes palestiniens, mais à un moment, ils vont se fédérer, l'ensemble des cinéastes palestiniens, et ils vont publier un manifeste, donc au début des années 70. Dans les grandes lignes, il y a, je dirais, peut-être deux ou trois principes majeurs qui sont affirmés. Le premier, c'est de faire un cinéma politique, donc un cinéma au service de la Révolution, comme on disait à l'époque. Le deuxième principe, mais qui va un petit peu avec le premier, c'est de faire des films collectivement. C'est-à-dire que, en fait, il y a toute une discussion entre cinéastes, mais aussi, surtout, en fait, avec les cadres politiques, les cadres de la résistance, pour définir les lignes qui vont être mises en image dans le film. Et en même temps, troisième principe, c'est qu'il y a aussi la volonté de créer une nouvelle esthétique. Hein. Il y a une confiance aussi dans le langage cinématographique. Donc c'est à la fois politique et à la fois cinématographique.
Quel est leur modèle? Parce que la révolution cubaine est passée par là, il y a eu toute l'école soviétique, cette lutte anticoloniale s'exprime aussi du côté des Vietnamiens. Est-ce qu'ils ont des modèles, ces premiers cinéastes palestiniens engagés?
Absolument, oui. On peut dire que le cinéma palestinien s'inscrit dans une tradition qui est à ce moment-là déjà assez longue. Le modèle direct, je pense que ce serait Santiago Alvarez, donc le cinéaste cubain qui était responsable des actualités cubaines, hein, le noticiero de l'Institut cubain du cinéma. Donc les actualités filmées, et qui lui-même est en fait une sorte de descendant de Dziga Vertov, donc il s'inspire beaucoup de Dziga Vertov. Donc effectivement, il y a toute une chaîne qui commence en URSS dans les années 20 et qui passe par l'émergence du cinéma tiers-mondiste dans les années 60 à Cuba et au Vietnam.
Alors, cours d'histoire 2019, Regard sur la Palestine, Georges Bollon, vous avez choisi deux films, un documentaire et une fiction. J'aimerais que, avant d'entendre les premiers extraits sonores, vous puissiez nous présenter ces deux films.
Oui, alors j'ai contacté Sylvain Dreyer, donc qui m'a fait une liste de films que j'ai regardé ou j'ai essayé de regarder pour ceux qui étaient qu'on pouvait encore retrouver. Et j'ai choisi ces deux films, un documentaire de Johan van der Gucken, donc le grand documentariste qui est maintenant décédé, qui a une œuvre considérable derrière lui, de 1975. Et pour moi, c'est une période très importante parce que c'est un moment où, en gros, les Palestiniens, ils luttent pour leur terre, pour leur retour, mais aussi pour une reconnaissance internationale. Hein, je veux dire, parce que ça, c'est aussi... Alors là, je m'excuse, je parlais aussi un peu de moi, mais dans ma famille, à la fin des années 60, début des années 70, on ne connaissait pas les Palestiniens, on connaissait juste les Arabes et les Juifs.
Hein, enfin, je crois que ce n'était pas que dans votre famille.
Oui, non, mais moi, je parle donc... Oui, voilà, mais je sais que c'était à peu près général. Et donc là, pour moi, c'était important. Et par ailleurs, ça correspond aussi à un moment donc, dont Sylvain Dreyer a parlé, c'est-à-dire le grand mouvement internationaliste, tiers-mondiste, qui rigue à peu près toutes les années 70 du point de vue du cinéma militant. Et puis, après un deuxième film, un court-métrage de fiction d'Ella Souleymane, qui est le grand réalisateur, peut-être le plus connu des réalisateurs palestiniens, au moins en France en tout cas, puisque ses longs-métrages sont sortis. Et alors c'est une commande de l'autorité palestinienne pour l'an 2000. Vous savez, pour l'an 2000, il y a des tas de commandes qui ont été faites un peu partout dans le monde. Et donc il a fait le film en 1979, c'est-à-dire 6 ans après les accords d'Oslo, qui ont apporté, les espoirs, etc. Mais qui, on est dans la période de désillusion. Et donc, il fait un film qui marque ça et qui s'inscrit aussi alors dans... puisque c'est une sorte de retour sur la nativité mis en perspective de la période 1999-2000. Et ce qui est intéressant aussi, c'est peut-être, alors ça, je ne sais pas, c'est une hypothèse que j'ai, mais c'est aussi que chez les Palestiniens, il y a une forte minorité chrétienne. Donc le film aussi s'inscrit peut-être dans ce cadre.
Ce sera le deuxième film dont nous allons entendre des extraits. Donc nous commençons par le documentaire du maître hollandais Johan van der Keuken, tourné au Liban en 1975, avant la guerre civile, avec pour personnages centraux les réfugiés palestiniens qui s'organisent pour faire leur révolution. Vous êtes bien sur RFI pour une séance de cinéma à la radio enregistrée au Festival du court-métrage de Clermont-Ferrand, une séance où l'on pose la question de la visibilité des Palestiniens au cinéma.
Quand mon père a ouvert la porte, un soldat israélien était là où je suis. Nous étions derrière mon père. Un officier de l'unité israélienne était dehors. Et il a tué mon père. Plus tard, nous avons retiré le corps des ruines de la maison. Mes frères ont été tués à l'intérieur, alors que j'étais avec eux. Ils ont fait sauter la maison et nous avons été ensevelis pendant une heure. Ça s'est passé comme ça. Chaque arabe qui soutient la cause arabe et la cause des Palestiniens expulsés de leur pays est menacé par l'ennemi sioniste.
Extrait du documentaire de Johan van der Keuken intitulé « Les Palestiniens ». L'homme qui parle est blessé au visage. Il témoigne de la façon dont son père a été tué par un soldat israélien. Et tout au long du film, Johan van der Keuken va montrer et donner la parole à des individus, souvent seuls face à la caméra. Comment vous expliquez ce choix, Sylvain Dreyer ?
Oui, alors Johan van der Keuken réalise un film un petit peu donc dans ce contexte du film politique, de cette période très politique, mais je trouve que ce film est un petit peu particulier et indique une évolution parce que effectivement c'est plus un discours frontalement politique, c'est plus un discours des cadres, des responsables du Fatah ou des responsables de l'OLP, mais il va vraiment au contact des populations et il choisit plusieurs personnages, dans le documentaire on parle de personnages aussi, il va choisir plusieurs témoignages et il va restituer, c'est pas simplement des témoignages en surface, c'est-à-dire qu'on voit bien qu'il prend le temps d'accompagner les gens, il y a des moments même muets avec les personnes qui sont interviewées, qui sont rencontrées, donc l'individu est au cœur du film.
Absolument, et puis il y a la définition de l'ennemi tout de suite, l'ennemi sioniste, c'est donc tout de suite la question de la terre occupée qui est au centre du discours des témoins.
Oui, mais en fait le film a un propos assez nuancé sur justement sur l'ennemi sioniste, parce que le sionisme, etc., c'est plutôt le cinéma fait par les Palestiniens et le cinéma politique frontal dont je parlais tout à l'heure. En fait, le propos politique est plus complexe que ça. Le film rappelle l'antisémitisme en Europe, rappelle la Deuxième Guerre mondiale, et en fait l'ennemi principal c'est pas les Israéliens, c'est en fait le capitalisme.
Je dis que nous sommes tous lâches, nous tous, même les plus grands dirigeants de ce pays. Car celui qui joue avec son chien ne s'inquiète pas de vous, est pire qu'un chien. Frère, je vais vous dire la vérité et vous me tuerez si vous voulez. Vous pouvez même prendre mon arme et me tuer car je dis la vérité. Vous êtes condamnable, car vous ne revendiquez pas vos droits.
Nous sommes au début des années 70 dans une mosquée au sud Liban et l'imam s'adresse avec virulence à la communauté des hommes venus prier. Et là encore, Johan van der Keuken filme en gros plan, Sylvain Dreyer, comme s'il voulait donner un large écho à l'appel lancé par l'imam. Quels sont ces droits justement que les Palestiniens, dont à l'époque on n'entend pas beaucoup parler dans le reste du monde, doivent revendiquer ?
Ouais. Bon, là, on a peut-être le moment le plus directement politique du film. Enfin, c'est là, c'est vraiment un discours de, quand même d'un responsable, en quelque sorte, un responsable religieux. Bon, oui, à ce moment-là, les droits que revendiquent les Palestiniens, ça concerne le territoire, hein, ça concerne les territoires. Bon, il y a plusieurs positions au sein des Palestiniens sur est-ce que c'est la totalité de la Palestine, est-ce que c'est un État pour les Palestiniens et les Juifs. Voilà, donc c'est assez compliqué en fait là, cette histoire des droits.
Hein. Georges Belon.
Oui, alors quand on voit cette image justement de cet imam qui est, je pense qu'on peut dire un mot là, parce que c'est visiblement, on est au sud, c'est la partie chiite du pays. À l'époque, le Hezbollah n'existe pas. Et quand on entend le discours, on comprend aussi maintenant pourquoi le Hezbollah existe. Hein, je veux dire. C'est-à-dire que les questions que pose cet homme, elles n'ont jamais eu aucune réponse. Hein, et en particulier, il s'en prend en particulier tous les régimes arabes qui se servent de la cause palestinienne et qui n'ont jamais fait grand-chose pour eux. Et donc, on comprend maintenant pourquoi le Hezbollah existe au Liban.
Avant la révolution, la vie était dure. Les autorités libanaises nous opprimaient. Nous avons longtemps vécu dans des taudis où même des mulets ne pourraient pas vivre. Depuis la révolution, nous avons de nouveau l'espoir de rentrer chez nous. La vie en Palestine était vraiment belle. Les uns vivaient de l'élevage, d'autres de la terre. D'autres encore étaient ouvriers. La vie était simple, la vie était paisible, la vie était belle. Nous ne manquions de rien. Des gens venaient de pays lointains pour vivre et travailler en Palestine, parce qu'en Palestine, c'était l'abondance.
Mon fils, je ne sais pas où il est, au ciel ou encore sur terre. Je sais qu'il est courageux et qu'il lutte pour son pays. S'il meurt, ce ne sera pas pour rien. Son frère continuera et rentrera au pays, et s'il est tué à son tour, ce sera un autre, plus jeune, qui rentrera au pays. Et mon fils aura préparé leur retour, car la nouvelle génération n'a pas connu son pays. Moi, j'ai connu mon pays. Eux n'ont connu que la guerre et la fuite d'un pays à l'autre. Aucun gouvernement ne leur permet de travailler. J'ai vécu de bons moments en Palestine, mais les jeunes n'ont vécu que comme des réfugiés à l'étranger. Rentrer au pays, même en ayant faim, vaut mieux que cette vie.
Ils sont exilés au Liban, ils ont connu leur pays d'origine qu'ils idéalisent et ils croient à la révolution dans un pays, le Liban, regardé par Johan van der Keuken comme un pays capitaliste, Georges Bollon. Je pense notamment à cette longue séquence sur les banques. Est-ce que vous pourriez un petit peu la décrire pour nos auditeurs et pour le public de la librairie des Volcans ici à Clermont-Ferrand? Comment vous l'avez ressenti?
Alors effectivement, il y a éruption en quelque sorte dans ce film. Alors on voit toutes les façades des banques. Alors, il y a des banques arabes, des banques françaises, banques du Moyen-Orient, etc. Et puis on voit des gens qui comptent des billets. Et derrière, il y a toute une musique guillerette, enfin de jazzy guillerette, qui amène à une sorte de contrepoint par rapport à tout ce qu'on a pu voir avant. Et le discours est clair là-dessus. Et ça, je pense que c'est tout à fait le discours de van der Keuken dans cette période. C'est-à-dire que pour lui, la question principale, c'est la question de la lutte des classes. Et il le dit carrément, les Palestiniens... sont opprimés, ils sont comme les pauvres Libanais en quelque sorte, c'est-à-dire ils sont opprimés d'un côté par Israël qui les a expulsés et de l'autre côté par les classes dominantes arabes qui ne font rien pour eux, et donc ils s'inscrivent dans une solidarité internationaliste avec un éclairage tout à fait marxiste de ce point de vue-là, et que ce qui va d'ailleurs à un moment ou à un autre déboucher, ça on ne le sait pas encore, sur la guerre civile libanaise avec les différentes factions libanaises qui vont ou s'associer aux Palestiniens ou les massacrer.
Sylvain Dreyer, c'est ce que dans l'historique du cinéma palestinien, on peut appeler aussi la convergence des luttes.
Oui.
C'est cette question.
Oui, c'est cette question très importante de la convergence des luttes. Et c'est-à-dire que concrètement, pour le cas palestinien, il y a aussi toute une série de cinéastes militants européens, occidentaux, américains, japonais, qui vont venir sur place pour aussi faire des images. Le film de Johan van der Keuken se comprend dans ce mouvement d'aller-retour. Les films palestiniens partent au-delà du Moyen-Orient, et puis les équipes de cinéma arrivent des pays du monde entier quasiment. Ouais.
Alors qui arrive ?
Alors, si on rentre un petit peu dans le détail...
On veut quelques noms, quand même.
Oui, bon, alors, dans les noms les plus connus, donc, il y a Godard qui réalise un film... Enfin, qui tourne un film qui a une histoire un petit peu compliquée, qui va jamais voir le jour, en quelque sorte. Voilà, c'est le contexte du groupe Ziga Vertov, donc, où Godard refuse de s'appeler Godard. Donc, c'est l'impératif du collectif militant. Qui d'autre ? Pour les Français, il y a des images aussi du groupe de cinéma de Vincennes. Voilà. Pour les plus connus, il y a aussi une équipe du Newsreel américain qui de New York, hein, ce groupe de cinéma aussi qui vient tourner des images.
Alors ils sont incroyables, ce sont les Newsreel, toutes les équipes de caméramans qui ont filmé en live, comme on dit aujourd'hui, toutes les émeutes 68, 69, les années 70 aux États-Unis. C'est des documents cinématographiques absolument incroyables.
Ouais, c'est très intéressant tout ce qu'on fait le Newsreel. Et puis il y a aussi des Japonais, il y a ce cas un peu incroyable. Des deux Japonais qui sont membres de l'armée rouge japonaise, donc un groupe terroriste japonais qui sont en accointance avec le FPLP, qui est un des groupes palestiniens les plus radicaux au niveau politique, hein, les plus marxistes, on va dire, au niveau politique, qui tournent un film, puis après qui sont bloqués au Liban pendant 25 ans, parce qu'ils ne peuvent plus rentrer dans leur pays, parce qu'ils risquent la prison de leur pays. Donc il y a des histoires assez incroyables à ce moment-là. Ouais.
La question de l'engagement au sein de la révolution palestinienne est au cœur du documentaire de Yoann van der Keuken.
Je me suis engagé dans la révolution palestinienne en 1970, mais j'étais dans la garde royale de l'armée jordanienne quand celle-ci a massacré mes frères palestiniens. Bien sûr, je ne pouvais pas tirer sur mon peuple dans les camps. Alors j'ai déserté avec 6 Palestiniens dans un char jordanien et nous avons rejoint les rangs de la révolution palestinienne.
Alors ce n'est pas ici Londres, hein. C'est la radio révolutionnaire, mais c'est vrai qu'on y pense. La radio est un personnage de ce film. Les sous-titres permettent de comprendre que les fédaïnes s'envoient des messages. Quel rôle a cette radio dans le film ? Parce que cette bande-son de la radio, elle revient régulièrement. Alors évidemment, moi, en tant que femme de radio, ça m'a intéressée. Sylvain Dreyer, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce son de la radio qui accompagne comme ça le film de van der Keuken ?
Oui, en fait, là, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tous les médias sont mobilisés. Donc on a parlé beaucoup de l'image, mais également il y a la radio, il y a des textes qui circulent, voilà. Bon, et puisqu'on parle d'image quand même, c'est pour donner un peu une idée aux auditeurs, le film est très précieux parce qu'il montre beaucoup quelque chose qu'on voit pas souvent, c'est le rôle des femmes. Donc on a toute une série de scènes dans des hôpitaux, dans des écoles, sur l'hygiène, sur les soins, sur l'éducation. Il y a la séquence finale, c'est dans une école où il y a un instituteur palestinien qui interroge ses élèves. Alors, où est votre pays ? En quelle année vous avez été chassé de votre pays ? Etc.
Et ça, on va entendre tout ça, parce que ce qui est intéressant, effectivement, c'est tout ce récit historique également qui est donné dans ce documentaire de van der Keuken, tel qu'il est prononcé par les Palestiniens. Ce récit historique du contexte dans lequel est né cette révolution, c'est-à-dire le conflit israélo-palestinien. Et Yoann van der Keuken rappelle très clairement l'origine même du conflit, c'est-à-dire cette promesse faite par la Grande-Bretagne à la fois aux Palestiniens et aux Juifs, c'est-à-dire qu'en fait on promet aux deux parties la même terre. La même terre a été promise aux Juifs et aux Arabes, une promesse évidemment impossible à tenir à l'issue de la Seconde Guerre mondiale.
In het nauw gedreven wendt Engeland zich tot de Verenigde Naties.
La Grande-Bretagne, acculée, se tourna vers les Nations Unies qui décidèrent d'établir un partage de la Palestine en deux États, juifs et arabes. Les Palestiniens refusèrent cette division de leur pays, mais on leur répondit par des balles.
Op 9 april 1948,
le 9 avril 1948, la population entière de Deir Yassine fut massacrée. Ce fut le début de l'exode palestinien. Quand prit fin le mandat britannique, le 15 mai 1948, la guerre était inévitable. L'État d'Israël fut tout de suite proclamé et les armées arabes attaquèrent. Mais leur division et leur désunion provoquèrent leur déroute. Les Palestiniens s'enfuirent, leurs terres furent confisquées. Ceux qui sont restés devinrent les citoyens de troisième classe du nouvel État. Et quand en juin 1967, Israël occupa la rive droite du Jourdain, des milliers de Palestiniens durent fuir pour la seconde fois.
Alors effectivement, on peut se poser la question, est-ce que le film de Johan van der Keuken est uniquement un film de propagande au service de la révolution palestinienne? Sylvain Dreyer, vous avez souligné la volonté de rigueur historique aussi de van der Keuken, tel qu'on vient de l'entendre dans son propre commentaire.
Oui, alors là, ce commentaire en voix off hein, qui accompagne des images d'archives, il est extrêmement fort parce qu'il est très synthétique. Là, je trouve pas qu'il y ait de coloration politique ou idéologique particulière. Hein. En quelques phrases, il resitue, il recontextualise très précisément les sources du conflit en montrant bien que c'est quand même les Britanniques et les puissances, on va dire, colonialistes qui sont responsables de cette situation. Ouais.
Mais également, on peut se poser la question de ce que signifie la scène tournée dans l'école du camp de réfugiés, dont vous avez fait déjà mention. Une scène qui m'a effectivement interpellée, où là on a une autre version de l'histoire, celle qui est enseignée aux élèves par l'instituteur.
Nous savons que notre pays s'appelle la Palestine. En quelle année avons-nous quitté notre pays? En quelle année? Toi, au fond. En 1948, quel pays avait alors un mandat sur la Palestine? Qui était le ministre britannique qui l'a promis aux Juifs? Quel était son nom? Son nom était Balfour. Balfour a promis aux Juifs un État en Palestine. Évidemment, le peuple palestinien a refusé. Il y a eu des soulèvements, comme ceux de 1919, 1926 et 1936. Mais celui de 1936 a été le plus important. Il y a eu une grève générale dans toutes les villes de Palestine. Pour calmer les gens, les Anglais ont alors déclaré que la Palestine serait toujours aux Palestiniens. Mais les Anglais étaient-ils sincères? Non, bien sûr que non. La véritable révolution palestinienne a commencé en 1965. Quelle est la date exacte? Le 1er janvier 1965. Nous sommes actuellement tous armés et déterminés à reconquérir notre pays. Quelles sont les plus grandes villes de notre pays? Jérusalem, Saint-Jean-d'Acre, Haïfa, Jaffa. Quels sont les fruits de notre pays, la Palestine? Nous avons beaucoup de fruits que les Israéliens exportent maintenant. Quelles sortes de fruits? Des citrons, des oranges.
Extrait du film de Johan van der Keuken, Les Palestiniens. Je rappelle que le tournage a eu lieu avant 1975. Georges Bollon, c'est très intéressant cette scène en classe dans ce film Les Palestiniens. Est-ce que l'école est une fabrique identitaire de petits Palestiniens?
Ah, oui, absolument. Alors, hier soir, il y a une enseignante de Clermont-Ferrand, Cécile Morin, qui nous faisait remarquer que finalement, on était peut-être aussi dans une école de la Troisième République française, au moment où l'Alsace-Lorraine n'était plus française. Hein, je veux dire, il y a peut-être des correspondances à faire aussi, parce qu'on regarde ça maintenant avec un œil tout à fait de notre période, et alors, ça apparaît effectivement comme une sorte de propagande chez les enfants, mais bon, c'est aussi une leçon d'histoire, c'est aussi un cours d'histoire. Alors, ce qui est assez intéressant, parce qu'on est en 1974-75, c'est que les villes qui sont citées par les enfants, les villes palestiniennes, sont des villes qui sont à l'intérieur actuellement d'Israël. Je ne suis pas sûr que ça soit maintenant la ligne de l'autorité palestinienne après les accords d'Oslo. Hein. Je veux dire, on cite Jérusalem, bon, bien évidemment, bon, on connaît la question de Jérusalem ouest et est, mais on cite aussi Haïfa, on cite Saint-Jean-d'Acre, on cite Jaffa, c'est-à-dire la banlieue de Tel Aviv. Hein. Donc là, on est aussi dans... là, on voit comment un film parle d'histoire aussi. On voit aussi quel regard on peut avoir en 75, et puis maintenant, qu'est-ce que veut dire ce film par rapport à cette période?
Et bien sûr, on pense également, Sylvain Dreyer, à la dernière scène du film, qui est extrêmement forte, où là, ce sont les petits enfants du camp, les petits réfugiés, qui sont entraînés à la marche militaire. Et c'est là-dessus que le film se termine.
Mmh, ouais. Oui, en fait, là, on parle des deux dernières séquences, la séquence à l'école et puis la séquence d'une sorte d'entraînement des enfants. Ouais. Et je voulais juste revenir sur la séquence de l'école, si c'est possible.
Je crois que ça va être possible.
D'accord. En fait, Johan von der Keuken, il parle très précisément de cette séquence et il dit qu'il avait une intention ironique aussi en faisant cette séquence. Parce qu'il
c'est
dit,
à dire.
Ça, elle arrive à la fin du film et c'est une sorte de mise à distance ou de mise en abîme du film. C'est ce qu'a fait le film. Le film, il nous a fait un petit peu la leçon, il nous a fait l'école, on est les enfants. Johan von der Keuken, c'est l'instituteur. Et est-ce qu'on a bien retenu la leçon? C'est une sorte de récapitulatif pour être sûr qu'on a bien retenu la leçon. Il dit que c'est un petit peu ironique. Bon. Maintenant, je réponds sur la question de la séquence finale. Donc, dans la séquence finale, on voit effectivement des enfants en train de s'entraîner sur une sorte de marche militaire, bon, pas très synchronisée. Cette séquence, elle est très intéressante parce qu'elle pose précisément la question du regard et du destinataire. On a montré une séquence de ce type l'année dernière dans un autre festival sur le cinéma militant et le cinéma palestinien. La salle a très mal réagi en voyant ces images parce qu'aujourd'hui, en 2019, en France, voir des enfants en armes répéter des slogans et s'entraîner, ça nous paraît complètement monstrueux. Hein. Ça nous paraît dingue. Alors qu'à l'époque, pas du tout. Au contraire, la séquence était perçue à la fois bon, très clairement par les Palestiniens, mais également par les étrangers à qui était aussi destiné le film, hein, en l'occurrence là aux Pays-Bas, comme l'idée d'une guerre populaire prolongée. Voilà, ça va continuer, il y a la nouvelle génération qui arrive.
Nouvelle génération qui allait naître dans les camps de réfugiés. Alors en tout cas, Johan von der Keuken montre comment la révolution est dans tout, dans l'éducation des enfants à l'école, on l'a dit, mais aussi dans les soins apportés aux malades et dans toutes les organisations de l'OLP, hein, l'Organisation de Libération de la Palestine, comme l'Union des Femmes Palestiniennes. Ce sera notre dernier extrait.
Je suis dans l'Union des femmes palestiniennes qui fait partie de l'OLP. Cette année, au comité d'éducation, nous nous attachons surtout à instruire les adultes analphabètes dans les camps. Tout notre travail s'effectue dans les camps. Nous avons des écoles où des femmes illettrées peuvent apprendre à lire et à écrire. Nous avons aussi des jardins d'enfants pour les moins de 5 ans. Et nous tenons des réunions publiques dans les camps où nous parlons des soins à donner aux enfants. Des jeunes femmes veulent nous rejoindre et faire quelque chose. Mais elles se heurtent au conservatisme de leurs parents qui ne sont pas habitués à l'indépendance des femmes. Nous ne voulons pas rompre totalement avec nos traditions. Nous voulons que nos parents acceptent le fait que leurs filles puissent rejoindre la révolution.
Alors pour conclure sur ce film, et peut-être à la différence d'aujourd'hui, Georges Bollon, la religion musulmane semble être éventuellement un moyen d'interpeller la communauté ou de soutenir le combat, mais elle ne semble pas être une fin telle que nous présente von der Keuken dans ses images.
Oui, on est aussi effectivement dans une autre période. On a un regard actuel maintenant qu'on peut mettre en perspective. Regardez les images de ce film, le propos de ce film, la teneur idéologique de ce film et puis ce qui se passe effectivement maintenant. Bien évidemment, on pense immédiatement au fait que le Hamas dirige Gaza. On pense que le conservatisme s'est répandu très largement dans la société palestinienne, mais pas que dans la société palestinienne malheureusement. Hein. Ce qui se passe de l'autre côté en Israël, c'est aussi à peu près la même chose. Et puis on voit aussi que dans les pays occidentaux, il y a des grands courants idéologiques conservateurs qui sont en train de traverser nos sociétés. Donc voilà, là on est à partir d'images d'une période, on est dans un processus historique et on peut réfléchir à travers ces images à que s'est-il passé depuis.
Alors avant de passer à l'autre film de notre séance cours d'histoire, donc avec le cinéma des années 90. Moi, je voulais vous faire un petit cadeau pour ces 10 ans de cours d'histoire et partager avec vous une image médiatique qui a marqué l'histoire du conflit. C'est la fameuse poignée de main entre Yitzhak Rabin, premier ministre israélien, et Yasser Arafat, chef de l'OLP, lors de la signature des accords d'Oslo. Nous sommes le 13 septembre 1993 et c'est le journaliste Xavier Baudin-Hulin qui commente cet événement historique pour France 3.
Ils applaudissent. L'accord vient d'être signé. Et chacun attend le geste. Ce geste à la fois si simple et si compliqué. Yitzhak Rabin, hésitant, n'a pu refuser cette main tendue par Yasser Arafat. Comme prévu, la déclaration de principe sur l'autonomie intermédiaire de 5 ans a donc été signée par Shimon Peres et Abou Mazen, le chef du département des affaires internationales de l'OLP. L'accord entre en vigueur dans un mois. Retrait des forces israéliennes de Gaza et de Jéricho dans 4 mois, transfert des pouvoirs aux Palestiniens, puis élection directe d'un conseil de l'autonomie sous 10 mois. Signature et émotion quand Yitzhak Rabin puis Yasser Arafat ont pris la parole.
Nous qui sommes venus d'une terre où ce sont les parents qui enterrent leurs enfants. Nous qui nous sommes battus contre vous, les Palestiniens. Nous vous disons aujourd'hui, d'une voix forte et claire, assez de sang et assez de larmes. Assez.
La bataille pour la paix est la plus difficile de notre vie. Elle mérite nos efforts les plus soutenus parce que la terre de la paix aspire à une paix juste et globale.
Et comme si le geste était désormais devenu banal, Yasser Arafat est allé une nouvelle fois chercher la main d'Yitzhak Rabin. 1h15 de cérémonie historique où chacun a rappelé que la construction de la paix sera difficile, encore plus difficile qu'une signature et une poignée de main.
Je vous laisse réagir tous les deux à ce document, Georges Bollon.
Oui, bah, oui, c'est intéressant de voir ça, mais c'est aussi d'entendre ça, c'est aussi là le regard qu'on peut avoir maintenant sur cette période, hein, je veux dire, qui, bien évidemment. Alors, je pense qu'il faut aussi l'inscrire dans ce qu'on appelle maintenant la mondialisation, que moi je préfère dire la globalisation, c'est-à-dire qu'on est en 93, c'est-à-dire que le camp socialiste s'est effondré. Hein, je veux dire, c'est aussi fondamental, ça va être aussi fondamental par rapport à l'Afrique du Sud. Bon, mais ça, c'est juste une petite remarque. Mais bien évidemment, qu'est-ce qu'il reste de ça? C'est-à-dire que il reste quand même la Cisjordanie en 3 zones. Paraît-il en 3 zones, c'est-à-dire zone A palestinienne, zone B mixte et puis zone C israélienne. Il reste que malgré ces fameux accords, la colonisation s'est développée. Il reste aussi que Yitzhak Rabin a été assassiné par l'extrême droite israélienne, hein, je veux dire, qui est maintenant au pouvoir. Donc ça, c'est faut le voir aussi. Et si on le met en rapport avec le film de Van der Kuiken, on est effectivement dans un autre monde, quoi.
Sylvain Dreyer, une image émouvante, une image annonciatrice de la paix, mais une image effacée.
Oui, ce qui était intéressant dans l'extrait qu'on a écouté, c'est la dernière phrase, quoi, où le journaliste dit il y a une poignée de main, c'est bien, mais le plus dur reste à faire. En fait, et le plus dur n'a pas été fait. Voilà.
Alors, comment rendre visibles les Palestiniens dans cette période post-révolutionnaire? C'est la question posée par le cinéma palestinien et par le film Cyber-Palestine de Elia Souleymane. Vous écoutez La Marche du Monde sur RFI. Nous sommes en public au Festival du court-métrage de Clermont-Ferrand pour accompagner le 10e cours d'histoire autour du cinéma palestinien. Un cinéma né au début des années 70 pour défendre la cause palestinienne. Un cinéma de la convergence des luttes dont l'expression va évoluer au fil du conflit vers un cinéma post-révolutionnaire. Et vous avez choisi un film extrêmement singulier, Georges Bollon, pour évoquer cette production cinématographique palestinienne des années 90, avec cette fiction de Elia Souleymane. C'est très étonnant, puisque Marie et Joseph, je parle bien du couple de la Bible, est devenu un couple de Palestiniens d'aujourd'hui, enfin donc des années 90, qui retourne vivre à Gaza, occupé donc par Israël. Pourquoi vous avez choisi ce film ?
Alors, j'ai choisi parce que Sylvain Dreyer m'a fait une liste de films et que ce film était dans la liste. Moi, je ne le connaissais pas. J'ai réussi à le retrouver d'ailleurs dans les archives de la Jetée, une cassette VHS un peu poussiéreuse où on voyait l'image était à moitié effacée. Et puis, j'ai retrouvé en fait la production d'Elga Souleymane qui vit en France, qui vit à Paris, qui prépare un long métrage et qui a pu nous louer une cassette bêta de meilleure qualité qu'on a pu aussi transformer en DCP. Alors, pour moi, c'est justement la déception après les accords d'Oslo. On est 6 ans après les accords d'Oslo, on vient d'en parler, et on est sur un retour à une autre idée peut-être, et de la Palestine, et du conflit, et de toute la période qui va s'inscrire dans ce moment historique.
Voilà, avec cette métaphore hein, biblique, avec Marie et Joseph, ils doivent rejoindre la terre promise pour accoucher, et c'est l'ange Gabriel qui leur annonce par téléphone. Suite à l'appel de l'ange Gabriel, une forte lumière traverse la fenêtre et les hypnotise, et c'est l'annonce faite à Joseph. Emmène Marie à Bethléem, où elle mettra au monde un enfant. Du point de vue stylistique, c'est un film pour vous, métaphorique bien sûr, mais est-ce qu'il y a de l'humour dans ce film pour vous, Sylvain Dreyer ?
Oui, bah c'est un film très, très humoristique. Là, on est vraiment à des années-lumière de ce qu'on a pu voir jusqu'à présent, hein, quand on évoquait le cinéma palestinien très frontalement politique. On est dans une forme d'allégorie. On est dans une mise en scène très distanciée, très hiératique, c'est-à-dire que les acteurs qui jouent Marie et Joseph sont très immobiles, le visage n'exprime pas d'émotion. Voilà. Et alors, l'ironie, elle naît de plusieurs éléments. En particulier, il y a cette utilisation de la musique, hein, qui est un petit peu ironique parce qu'il prend des musique très cliché, il prend du Bach, il prend du Mahler, il prend même la bande son de Matrix, et puis il fait une sorte de mélange un peu bizarre, il mélange tout ça, voilà, ça donne un film assez, assez étonnant, oui.
Et c'est quand même au moment du passage du checkpoint, parce que vous nous avez expliqué dans votre conférence, Sylvain Dreyer, que dans ce cinéma palestinien, la question de la frontière, évidemment, est extrêmement présente. Hein, la question des passages de checkpoint, puisque, que ce soit dans un sens ou dans l'autre, les gens n'arrêtent pas d'essayer de passer des checkpoints. Alors, ils arrivent ou ils n'y arrivent pas. Et dans le film Cyber-Palestine, c'est justement au moment du passage du checkpoint que tout va basculer. Et là, cette fois, c'est plus drôle du tout. J'aimerais que vous nous décriviez cette scène et ce qu'elle signifie pour vous, Sylvain Dreyer.
Oui, alors effectivement, là, on est dans une tonalité assez différente de ce que j'ai décrit, de la tonalité humoristique que j'ai décrite. Alors, dans la scène du checkpoint, c'est une scène assez, assez intéressante. On a à la fois un mélange d'images mises en scène, donc d'images, on va dire, fictives, fictionnelles, et qui appellent tout de suite des images documentaires, en fait, qui ont des images volées à la caméra, où on voit une foule de Palestiniens en train de faire la queue la nuit devant un checkpoint. Après, on a une confrontation donc, qui est filmée en champ contre champ entre d'un côté Joseph et de l'autre côté le soldat israélien un peu goguenard qui demande alors qui est le père hein, en faisant une sorte de clin d'œil hein, qui a mis Marie enceinte pour que, voilà, qui est le père de l'enfant.
Et là, Joseph ne supporte pas.
Joseph ne supporte pas et là il met une claque monumentale au soldat israélien. Et à ce moment-là, Elia Souleymane nous montre des images de la première intifada, donc où tout de suite donc l'image fictionnelle est relayée par l'image documentaire.
C'est l'explosion de la colère.
Explosion de la colère, voilà, qui métaphorise l'explosion de la colère, effectivement.
Alors, les Palestiniens sont-ils un peuple invisible ? On se repose la question pour conclure, Sylvain Dreyer, avec peut-être l'écrivain Elias Sambar. Il écrivait en 2004 l'expulsion des Palestiniens de leur pays est doublé par une expulsion de la visibilité. Est-ce toujours vrai ? Je vous pose la question à tous les deux, Sylvain Dreyer.
Alors, Justement, l'exemple du film Cyber-Palestine de Ilya Souleymane, il nous montre bien que le cinéma peut être une sorte de lieu utopique où ce qui est absolument impossible dans le réel, c'est-à-dire mettre une baffe monumentale à un soldat israélien, c'est possible. Et donc tout le cinéma d'Ilya Souleymane, c'est un peu ça, c'est de faire le cinéma comme la Palestine, c'est un lieu utopique, c'est un lieu qui est détaché du réel.
Un lieu virtuel.
Un lieu virtuel, comme l'Internet. L'Internet, hein, voilà, c'est l'idée.
Georges Boulon. Oui,
moi, je vais partir d'une image que je vais essayer de décrire, j'espère pas trop maladroitement. Dans le film, au début de Cyber-Palestine, on voit donc l'homme qui tape sur son ordinateur et sur le fond, il y a une affiche qui est très très connue, qui s'appelle « Visite Palestine ». Alors, j'invite tous les auditeurs à taper dans leur moteur de recherche « Affiche Visite Palestine ». Alors, c'est une affiche qui date du mandat britannique, hein, il y a un petit côté comme ça vieillot, sympathique, où on est sous un arbre et puis au loin, on voit Jérusalem. Et cette affiche, les jeunes Palestiniens, des graphistes palestiniens s'en sont emparés et l'ont reprise. Et au lieu de voir Jérusalem, maintenant, on voit le mur. Et ça, je trouve que c'est très symbolique de ce qui se passe actuellement en Palestine, de toute une jeunesse qui va s'accaparer des images, qui va s'accaparer aussi un nouveau cinéma. Par exemple, il y a une école de cinéma à Bethléem qui est tout à fait intéressante, qui va reprendre sous différentes formes, d'ailleurs, le problème spécifiquement de politique palestinien, mais pas uniquement. Je pense en particulier à un film là, qui est disponible aussi ici au marché qui s'appelle Ambiance, où des jeunes palestiniens veulent enregistrer des morceaux de musique, mais il y a tellement de bruit dans le quartier où ils habitent, etc., qu'ils n'y arrivent pas. Et puis finalement, ils décident d'enregistrer la vie. Alors la vie, ça peut être en Palestine, ça peut être une émeute de jeunes qui vont balancer des cailloux sur les soldats israéliens qui sont à côté. Ça peut être des etc. Ça veut dire qu'il y a une reprise, il y a une jeunesse palestinienne qui est en train de s'accaparer différents outils du cinéma, de l'image, etc. Et je pense que ça, c'est très intéressant parce qu'on va vers une nouvelle période aussi. Alors, ce que ça donnera, je n'en sais rien, mais on va vers une période qui va être tout à fait intéressante de ce point de vue-là.
Merci à tous les deux, Georges Boulon et Sylvain Dreyer, pour cette séance courte d'histoire à la radio, une émission enregistrée en public à la librairie des Volcans à Clermont-Ferrand et réalisée par Steven Hesley. On se quitte avec le dernier morceau du film Cyber-Palestine, c'est Spybreak du groupe anglais Purple Heads. N'hésitez pas à nous écrire sur notre page La Marche du Monde sur RFI.fr, sur les réseaux sociaux. Exprimez-vous, podcastez. Cette émission, c'est la vôtre.